Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les Amis d'Orwell et aujourd'hui nous allons parler des nanotechnologies avec le collectif citoyen Nanotechnologie du plateau de Saclay. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez les Amis d'Orwell et donc nous sommes avec deux membres du collectif citoyen Nanotechnologie du plateau de Saclay qui se trouve donc dans le sud de Paris. Je pense que ça serait intéressant déjà de savoir ce que c'est que le plateau de Saclay avant d'en venir précisément à ce collectif.
On se présente nominativement, enfin Michel Rouillet, donc je suis à Palaiseau, élu et animateur de comité local Europe Écologie. Sur le plateau de Saclay, c'est un territoire qui effectivement interpelle parce que c'est un des rares grands territoires encore avec des terres agricoles. À 15 km de Paris, c'est exceptionnel. Et sur ce territoire-là, il y a toujours, l'État a toujours eu des projets. Il y a eu le livre blanc de Rocard. Ensuite, il y a eu l'opération d'intérêt national, le centre d'envergure européenne. Disons que c'est un territoire avec ses grandes écoles et ses terres agricoles qui fait toujours l'objet d'une attention particulière de l'État et d'une vision un petit peu métropolitaine des choses, oui.
Mais alors, donc sur ce plateau, donc il y a un projet, le projet Nano Innove, qui, je pense, est à l'origine de la création du collectif. En tout cas, il y a un lien avec la création du collectif.
Ah, ça, c'est évident. On a voulu que ce collectif s'appelle Plateau de Saclay parce que il est beaucoup plus facile de faire comprendre à la population qui habite sur le plateau que, disons, qui a une tradition de vouloir résister aux projets de l'État. Le terme de nanotechnologie ou nano tout court, nanomatériaux, est beaucoup plus compliqué à faire passer dans la population. C'est-à-dire que c'est pas le thème principal. La seule chose qui a fait que ce collectif s'est créé, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec le CEA de Saclay qui est à l'initiative de Nano Innove.
Donc c'est quoi le CEA ?
Le CEA, Centre d'énergie atomique. Bon, commissariat.
Commissariat.
À l'énergie atomique, pardon. Oui. Et le CEA est à l'origine du nucléaire en France. Enfin, ça a été créé à l'époque du gaullisme. Sûrement que tu en diras plus que moi là-dessus. Ce qui est certain, c'est que, à l'origine du collectif, il y a eu le projet de NanoInnov qui a été présenté au conseil municipal de Palaiseau comme quelque chose d'important sur le plateau, les nouvelles technologies, l'avant-garde, la recherche. Enfin, c'est les mots magiques sur le plateau de Saclay, hein, la recherche, les nouvelles technologies.
Ça, c'était quand ça que ce projet vous a été présenté?
Il nous a été présenté en janvier de cette année. Et le groupe des élus verts Europe Écologie, enfin en gros, on a réagi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il n'y avait pas du tout de vote, hein, il n'y avait pas de délibération ou quoi que ce soit. On nous a juste montré comment c'était beau ces bâtiments qui arrivaient sur le plateau de Saclay, en l'occurrence sur la commune de Palaiseau. Hein. Et du coup, on a fait un petit peu des recherches. À titre personnel, à Grenoble, j'avais déjà été à Grenoble, j'avais rencontré des groupes qui travaillaient sur ce problème des nanos, donc j'avais une petite sensibilité à ça, et du coup on a été voir les textes de l'AFSET, les recommandations, l'Agence française de sécurité du travail sanitaire. Les problèmes qui sont non couverts de risques technologiques, problèmes pour les libertés, des problèmes pour grosso modo un modèle de société qui nous est imposé et sur lequel le citoyen lambda n'a pas beaucoup de choses à dire quand il sait que ça existe, puisque dans les produits cosmétiques ou dans l'alimentaire c'est pas écrit, hein. Déjà on a réussi à imposer que c'est écrit pour les OGM, et encore on n'est pas sûr que ça l'est à chaque fois, mais pour les nanos nulle part c'est écrit utilise des nanomatériaux ou des nanotechnologies.
D'accord, donc vous avez lancé un peu ce projet de collectif.
Alors oui, ce projet de collectif est arrivé comme ça, c'est-à-dire que nous on l'a annoncé publiquement, hein, en conseil municipal, on a dit on va créer un collectif. Après, comment faire un collectif? Je veux dire, c'est pas quelque chose aussi évident que ça. À titre personnel, je suis allé au Nanoforum, j'ai rencontré les gens.
C'est quoi ça, le Nanoforum?
Le Nanoforum, c'est un forum sur les nanotechnologies qui a été au CNAM, hein, au centre
national.
Sur un certain nombre de points, moi je suis allé qu'à la dernière séance du CNAM, hein. Et puis la question ça a été avec qui créer le collectif, donc il y a effectivement une rencontre avec l'association Vivagora, et à titre personnel j'ai fait les réunions à la mairie et en utilisant les propres réseaux que je connais, et j'ai fait venir.
Et donc vous avez réussi à faire venir suffisamment de monde sur ce sujet.
Voilà, pour lancer un collectif qui a démarré le 1er juillet de cette année, et effectivement tu disais qu'on était une quarantaine de personnes, donc c'est important. Maintenant on est plus ou moins impliqués les uns et les autres.
Je disais rien puisque j'ai pas encore parlé.
Voilà, donc on est aussi avec Jean-François Laval, donc de la Ligue des droits de l'homme et membre de ce collectif. Donc comment vous avez rejoint ce collectif?
Et moi j'aimerais revenir sur le point de départ, c'est-à-dire Saclay. J'ai le privilège de l'âge, c'est-à-dire de bien connaître la banlieue sud. Et depuis les années 30, si j'ose dire, en ajoutant mon père et mon grand-père, Saclay, quand j'étais jeune, enfant, c'était pas, et aussi le CEA, c'était exclusivement le commissariat à l'énergie atomique depuis 1945. C'était la pile Zoé et c'était la campagne autour. C'est des batailles politiques d'après-guerre. Et quand on a retiré à Joliot-Curie la direction du CEA, parce qu'il était communiste, et ultérieurement, l'université Paris-Sud a été créée par des gens autour de Joliot-Curie, des communistes.
Orsay,
oui. L'université Paris-Sud, le centre scientifique d'Orsay, qui est dans la vallée, dans un des projets, ce qu'on viendra peut-être du gouvernement, c'est de faire monter l'université, enfin le centre scientifique d'Orsay, puisque Paris-Sud, c'est une université qui a de la pharmacie à Châtenay, de la médecine à Kremlin-Bicêtre, du droit à Sceaux. Le commissariat à énergie atomique était longtemps la seule activité visible, et il s'est étendu au fil des années pour devenir ce que j'appelle le seigneur des lieux. Donc l'opération Nano est un des moyens, enfin un des points pour lesquels on voit que le CEA se renouvelle, et c'est exactement la même chose à Grenoble. Et CEA veut dire donc énergie atomique, nucléaire civile, et on en a vu des aspects même dans l'opération Nano-Innov. Nano-Innov, c'est un projet de financement, investissement spécialement pour les nanotechnologies. On a choisi trois lieux en France. L'administration de l'enseignement supérieur a choisi trois lieux en France, qui sont Grenoble autour du Toulouse et Saclay. Et il y a un comité de pilotage dans lequel on voit beaucoup de beau monde, de laboratoires et d'entreprises qui sont le CEA, EADS à Toulouse, Arkema ailleurs. Arkema, c'est l'ancien département en chimie de Total, qui est devenu une des plus grosses entreprises. Bon, ils vont financer cela. Alors, je ne sais pas si on pourra venir peut-être plus tard, si vous le souhaitez, sur ce qu'est l'opération universitaire Paris-Saclay, elle-même dans une opération Paris-Saclay qui est l'opération phare du Grand Paris. Le Grand Paris a fait l'objet, par décision, sur proposition d'un homme qui fumait beaucoup trop de cigares au gré des organismes financiers. C'est une opération Le Grand 8 métro, et il y a une société du Grand Paris qui vient de mettre en place, qui est un établissement public, et un autre établissement public qui est Paris-Saclay. Alors qu'il était prévu 9 pôles autour des stations du futur métro, pour le moment il y en a un seul qui a été décidé, qui a fait l'objet d'une loi, qui est Paris-Saclay. Et là, on retrouve des gens dont vient de parler de Michel, c'était des gens qui se méfient de ce qui se passe là-dessus, parce qu'ils ont non seulement d'autres visions des choses, mais ils l'ont proposé. Il y a un comité qui s'appelle le CLOS, je crois, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais qui représente des gens qui ont déposé un projet qui est strictement antagoniste, qui s'appelle le projet agro-urbain.
Le pôle agro-urbain du plateau de Saclay. C'est un autre collectif qui a été créé à l'initiative de la Confédération paysanne, des Verts Île-de-France et du réseau des AMAP, et qui a voulu, en face, au moment du concours des idées, faire en sorte que on fasse un projet alternatif au projet de l'État.
Au Grand Paris.
Ce qui était à l'origine de l'opération d'intérêt national et qui est devenu le Grand Paris avec Christian Blanc, effectivement.
Paris-Saclay, le nom officiel, ça, c'est la signification. Mais Paris, on ne peut pas venir s'installer à Paris, métropole mondiale, si on ne met pas Paris devant. Il y a un seul exemple qui se traduit. La Défense est autorisée à s'appeler Paris-La Défense. Et Paris-Saclay, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on va faire Paris-Saclay parce que les gens sont pas censés arriver jusque-là.
Jean-Pierre ?
Oui, parce que moi, je connais un peu la région, je vais m'y promener assez souvent, et c'est vrai, il y a aussi le CNR, ce qui est implanté à Gif-sur-Yvest, qu'on a oublié de... Ouais. Il y a plusieurs pôles déjà qui sont présents, mais c'est vrai qu'il y a encore ce côté un peu campagne, et il y a cet immense plateau, il y a la vallée de Chevreuse.
La vallée de Chevreuse.
Hein, qui est juste là, et on sent bien, on a oublié de citer quand même Monsieur Sarkozy, qui est quand même, qui est venu rendre visite, je crois, sur place. Oui, mais enfin, il en a fait un gros symbole. Voilà.
Oui,
c'est pas les retraites pour lui, mais la Silicon Valley,
c'est absolument idiot. La Silicon Valley, au total, fait 600 kilomètres. Bon, pour moi, la Silicon Valley, elle existe déjà en France. C'est ce qu'on appelait la ligne de Sceaux quand j'étais petit, c'est-à-dire le RERB. Ça commence au Quartier Latin et ça prend toute la vallée, Gif, Bure, Orsay, etc. Cachan, Robinson.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on sent pas encore trop cette emprise, ce grand pôle, on le sent pas encore trop, même s'il y a les prémices qui sont présents. Est-ce que Et j'ai un peu l'impression que derrière ce projet, il y a vraiment l'idée que quand on prend le RRB, on saura qu'on va sur un pôle scientifique, on ne pourra pas y échapper. Et on en discutait avant l'émission, est-ce qu'il n'y a pas ce retour à ces projets grandioses des années 70 qui sont les villes nouvelles, et est-ce que c'est pas ces pôles d'activité, c'est pas un retour à ça, quoi?
Si, non, mais bien sûr, déjà l'idée de vouloir faire un cluster, c'est-à-dire de rassembler la recherche publique et privée sur le même lieu, il faut savoir qu'il y a déjà des grandes écoles prestigieuses sur le plateau de Saclay, hein, quand Polytechnique est arrivé, il y a effectivement les HEC, enfin il y a pas mal de grandes écoles sur le même territoire. L'objectif là était au départ, quand Dominique de Villepin avait lancé l'opération d'intérêt national, effectivement de créer des emplois et une ville nouvelle. Mais cette les emplois, le 500 000 emplois, je veux dire, ça n'a jamais été, je cite ce chiffre, je ne suis même pas sûr que c'est le chiffre qui a été mis dans la lettre de mission, mais ça n'a jamais été prouvé comment on les crée. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'en regroupant la recherche et en créant finalement ce qui s'appelle une ville nouvelle sur ce territoire qui a beaucoup d'espace libre, si je puis dire, parce que les terres agricoles sont un espace libre pour des urbanistes. Voilà. Donc, penser que ça crée des emplois parce qu'on met de la recherche et parce qu'on estime qu'on va créer des brevets. Enfin, Sarkozy avait parlé de gagner plusieurs points de croissance sur le plateau Saclay. Hein.
Moi, je répondrais volontiers non, là où mon camarade a répondu oui. Les villes nouvelles, parce que les années 70, disons les années 60, il y a eu des projets de villes nouvelles, etc. Et qui consistaient à éviter l'urbanisation anarchique autour des nationales et autour des voies ferrées. Et c'est la création des villes nouvelles. Les villes nouvelles, là, en l'occurrence, c'était Évry et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Le projet Saclay consiste au contraire à effacer cette opération qui n'est pas une très grande réussite, mais qui n'est pas non plus un échec total, pour urbaniser au milieu le plateau de Saclay. Il faut bien voir qu'il est le motif principal du rejet par le Conseil d'État, s'appuyant sur la loi qui venait de voter, du schéma directeur de l'Île-de-France élaboré par le Conseil régional, c'est-à-dire en grande partie par la vice-présidente écologiste qui était chargée de ça. Parce que c'est ce qui permettrait de monter à 70 000 logements, construits en Île-de-France. Et c'est sur cette base-là que le maire de Palaiseau soutient un peu le projet.
Moi, je voudrais que
on va juste faire.
Juste une petite question. Par rapport à ça, c'est que le cluster Paris-Saclay, donc c'est un cluster, c'est-à-dire c'est un regroupement, une valorisation des liens qu'il peut y avoir entre des laboratoires de recherche, des grands groupes industriels, vous avez cité EADS, il y a aussi Thales qui est quand même bien implanté sur le plateau de Saclay, des laboratoires, des start-up aussi, puisque c'est
oui,
aussi...
Oui, le cluster, c'est pas des grosses entreprises.
Oui, mais il y a un mélange de deux.
Non, les grosses entreprises sont là pour financer
et récupérer... récupérer les bénéfices de ces innovations. Mais ce que je voulais simplement ajouter aussi par rapport aux prérogatives de ce cluster, c'est qu'il a aussi une capacité d'aménagement territorial et qui se substitue un peu à la cinquantaine de communes qui chapeautent. C'est-à-dire que un peu du jour au lendemain, donc vous avez parlé du schéma directeur d'Île-de-France qui a été mis de côté, mais c'est aussi, puisque vous êtes sur des questions de démocratie, c'est aussi des conseils municipaux qui sont presque privés de leurs prérogatives en matière d'aménagement.
Ah bah pour les élus locaux, hein, c'est évident. Là, pour le coup, on se retrouve avec les autres élus locaux en contradiction avec les projets de l'État. Ce qui n'est pas entièrement le cas au départ. Bon, là, je suis obligé quand même de dire les écologistes. On était dès le départ très méfiants. Bon, c'est ce que je représente aussi un peu quand même. On était très méfiants par rapport au projet d'urbanisation sur le plateau. Y compris de trouver on s'est toujours battu pour qu'on trouve un équilibre entre la recherche, sachant que la recherche ce qui est vraiment important, c'est qu'on garde aussi cette option recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sur le plateau un certain type de recherche et déshabiller la recherche partout ailleurs, en France d'ailleurs, hein, sur le territoire français. Ce qui est certain, c'est que le cluster, le projet que Christian Blanc a repris, qui existait c'est pas un projet tellement nouveau. C'est vouloir orienter la recherche publique par rapport à des projets de recherche privée, mutualiser un petit peu des équipements. Et le gros argument, c'est de dire ils vont se rencontrer à la cantine. Qu'est-ce que ça veut dire que des chercheurs se rencontrent à la cantine à l'époque d'Internet? Ça ne veut rien dire. Les gens, c'est pas parce qu'ils se rencontrent à la cantine qu'ils vont faire des projets en commun. Et effectivement, Silicon Valley, comme l'a très bien dit mon voisin, c'est beaucoup plus grand en termes de territoire. Là, on veut concentrer les choses sur un territoire donné. Maintenant, NanoInnov, c'est quand même assez particulier. Pourquoi on a voulu créer ce collectif? Enfin, quelques-uns déjà au départ, et on a agrégé des personnes autour. C'est que c'est sur la question des nanotechnologies, je trouve que là, il y a un vol manifeste de connaissances et de démocratie de tout un chacun. C'est-à-dire que c'est comme ça que, en tout cas, c'est ressenti. On nous impose des technologies sous prétexte que on sera à même de faire des produits auto-nettoyants, qu'on sera à même de faire des chaussettes qui restent perpétuellement. Voilà. Non, mais je veux dire, pour des gains sociaux un peu dérisoires de la société de consommation, en gros, on prend des risques pour les générations futures, pour la génération présente. Et surtout, ce qui nous a paru quand même fondamental, c'est qu'on nous a présenté un projet d'un bâtiment en disant, en gros, il va y avoir de la recherche sur les nanos. Alors ça, c'est le côté qu'on devrait être ébahi devant ça. Et avec, histoire de le présenter mieux, 10% de recherche sur les risques. Alors déjà, 10% de recherche sur les risques sur les nanos, depuis qu'on nous a dit ça, on les cherche, ces 10%. C'est-à-dire que c'est vraiment véritablement une boîte noire. À part qu'on sait que le CEA est derrière, de même que dans la région de Grenoble, on ne sait pas du tout en gros les financements, à part que effectivement, quand il y a eu le grand emprunt, on a su qu'il y a une partie qui va pour NanoInnov.
Il y a sur Saclay, il y a 40 millions pour NanoInnov, non?
46 millions d'euros à Saclay, ouais, pour
sur les 70 millions du plan Nanotech de l'année dernière.
Voilà. Mais donc il y a une partie du grand emprunt qui part. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne sait même pas de quelle nanotechnologie il s'agit. Hein. On parlait de civil, militaire. Enfin, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se faire. Si c'est de la micro électronique au niveau nanométrique, on ne sait rien du tout. C'est-à-dire ni le type de recherche, ni qui va vraiment aller là-dedans. Quelles sont les procédures de sécurité pour les gens qui travaillent dans la recherche sur ces domaines-là, parce qu'on sait que c'est sensible, etc. Donc c'est vraiment une recherche citoyenne de vouloir tirer les informations qu'on ne nous donne pas.
Quelles sont les échéances qu'ils ont? Quelles dates sont prévues pour l'installation de ce pôle?
Ce qu'on sait, c'est que le bâtiment est déjà là. Peut-être que je crois que tu avais été voir. Hein.
Non, moi j'ai pas d'éléments sur NanoInnov. J'ai encore des éléments sur l'ensemble de l'opération universitaire, les 10 écoles qui doivent monter, les conséquences en matière de spéculation foncière dans la vallée, et qui commence autour. Il s'agit de faire monter sur le plateau de Saclay des établissements qui sont d'ailleurs pas toujours très vieux, les faire monter sur le plateau de Saclay, et hop, ça va changer. Donc on va faire monter l'école centrale de Châtenay à l'abri, on va liquider le NS Cachan, on va faire monter une bonne partie de l'université Paris Sud, et ça va, mais on va vider, et il est prévu sur Cachan, sur Orsay, il est prévu des recettes qui proviendront de la revente, etc. Il y a un bout de l'université Paris, du centre d'Orsay de Paris Sud, qui a commencé à être vendu par la présidente précédente. Mais l'opération, on la juge, je suis pas sûr qu'on soit d'accord tous les deux sur le cluster et autres. Je suis pas sûr du tout, mais par contre, je sais qu'une opération, elle peut être idiote ou elle peut être intelligente, et quelquefois, l'action, probablement probablement que je suis écologiste aussi. L'action des écologistes, ça va pour intérêt de ralentir jusqu'à ce qu'on découvre que la solution peut-être était d'idiote. Nous avons eu la peau du 3e aéroport d'Île-de-France, il est vrai, avec les fédérations de syndicats agricoles de la Beauce, et puis on n'en a plus jamais parlé après, parce que ce projet était du point de vue de la construction d'un schéma aérien, totalement idiot.
Bon, en tout cas, je vous propose qu'on passe un morceau de musique et qu'ensuite on reparle plus précisément du collectif. Ouais.
Certaine attirance et que je pense qu'elle conjugue le chien et l'élégance. Léa, ah, quelque chose qui fait que je n'ose pas me rapprocher assez près pour que mon souffle se mélange au sien. Tout au plus, certains soirs, j'ose lui toucher les mains. Et même quand la cocotte s'aventure sur le siège avant droit de ma voiture, et ben là, moi non plus, je n'ose pas lui dire que je trouve qu'il y a un problème dans la distribution des rôles. Est-ce que je suis le concubin ou juste le bon copain? Un problème dans la distribution des rôles. Est-ce que je suis le compagnon ou juste le bon con? Léa, ah, quelque chose qui fait que je n'ose pas lui demander, s'il te plaît, est-ce que je peux mettre ma langue dans ta bouche et te montrer à quel point tu me touches? Léa, ah, quelque chose qui fait que je n'ose pas lui dire que je sais beurrer des tartines, même de bon matin, ranger une cuisine et laver une salle de bain. Et même quand la cocotte s'aventure sur le siège avant droit de ma voiture, et ben là, moi non plus, je n'ose pas lui dire que je trouve qu'il y a un problème dans la distribution des rôles. Est-ce que je suis le concubin ou juste le bon copain? Un problème dans la distribution des rôles. Est-ce que je suis le compagnon ou juste le bon con? Après quelques jours passés à me demander les chances que j'avais ou pas d'y arriver, me v'là assis là ce soir tout penché vers elle, et elle penchée en arrière à dire non merci toi, car vend la bouche, j'attire les mouches. Ce soir c'est moi, ma guitare, et je touche l'acier froid du bout de mes doigts. Les cordes tremblent, ça y est, j'entends ma voix. Sauf que maintenant l'histoire c'est moi qui l'écris. Appelle ça comme tu veux, art ou thérapie. Léa ne me manquera plus maintenant que je sais qu'il n'y a plus de problème dans la distribution des rôles. De problème dans la distribution des rôles.
Vous écoutez les amis d'Orwell, et donc on va parler. Enfin, on est en train de parler en fait du collectif citoyen nanotechnologie du plateau de Saclay. On est avec Michel Rouillet, donc qui est initiateur de ce collectif, et Jean-François Laval, donc de la LDH, qui a rejoint ce collectif plus récemment. Donc quels sont les enjeux autour de ce collectif?
Alors, je voudrais juste faire une précision. Je suis pas à tout seul initiateur. On s'est déjà au départ, on était un groupe d'élus écologistes à vouloir lancer l'idée, mais je l'ai reprise sur ce qui a été fait à la région, c'est-à-dire que la région avait déjà mis en garde cette problématique des nanotechnologies et souhaitait qu'un collectif émerge. Mais la collectivité, la région en elle-même n'a pas pu créer un collectif. Ça peut être que des individus. Donc c'est vrai que je suis un petit peu, je fais partie des personnes qui ont voulu que ce collectif existe au départ. Mais heureusement que...
Alors pourquoi ? Pourquoi ce collectif ?
Mais ce collectif, l'idée c'était que comme c'est une technologie, enfin des technologies en tout cas qui sont déjà utilisées dans un certain nombre de domaines, hein, comme l'alimentaire, l'électronique, les parfums, oui, les cosmétiques, etc.
Donc il y a plus de 1000 produits qui sont déjà commercialisés.
Voilà. Qui sont à l'échelle d'un nanomonde, c'est-à-dire, bon, moi je suis pas scientifique, mais on voit bien que c'est une échelle microscopique. Et voilà, c'est ça.
Un milliardième.
Voilà. Et dont on sait qu'à cette échelle-là, les matériaux, par exemple, n'ont pas les mêmes propriétés qu'à l'échelle normale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer des choses sur la toxicité comme la directive REACH sur les produits toxiques, etc. Donc on sait qu'on est devant à la fois quelque chose qui est vertigineux, c'est-à-dire qu'on peut, à travers ces techniques-là, faire des choses qui ne sont pas au départ envisageables. On est un petit peu dans la science-fiction. Et ça pose quand même des problèmes. Parce qu'on peut travailler sur le corps humain, on peut travailler sur le aussi au niveau des libertés, parce qu'on est capable de transporter de l'électronique à un niveau très très infime. On est capable dans l'alimentaire, dans les cosmétiques. Tout ça, on a le sentiment que ça se passe comme si les consommateurs. Consommatrices, enfin, on était un petit peu les cobayes de toute cette utilisation par le monde industriel de techniques dont tous les enjeux sociétaux n'ont pas été mis, n'ont pas du tout été mis à la connaissance du public. Il n'y a pas eu. Et c'est vrai que ce débat qui a été lancé par la Commission nationale du débat public est venu plutôt après coup.
Ça, c'était en 2009.
Voilà. Et ce débat est venu après coup parce que.
Commandité par l'État.
Parce que l'État s'est dit tout d'un coup, ah oui, au fait, peut-être qu'il faudrait demander l'avis aux citoyens. Donc ce débat a été un petit peu fait pour rattraper le manque de démocratie qui était
patent. Il a été dénoncé par pièces et main-d'œuvre.
Voilà. Il a été dénoncé. Par pièces et main-d'œuvre, il a été dénoncé aussi par des groupes politiques comme le nôtre, dans les cahiers d'acteurs. Pièces et main-d'œuvre a eu une action pour empêcher le débat. Mais de toute façon,
c'était un débat biaisé, on est d'accord.
Les dés étaient pipés, on est bien d'accord. On est bien d'accord que mais c'est le même. Les dés sont pipés aussi sur l'EPR dans le nucléaire. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on a décidé de faire quelque chose et qu'on fait un débat, alors que la décision sur la légitimité de sur quoi on discute, ne peut pas être mis en cause. Les dés sont pipés. C'est-à-dire que c'est plus un débat sur est-ce qu'on va faire ou pas faire, c'est un débat sur on fait de toute façon, quelle est l'acceptabilité.
Alors vous, le collectif, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire face à ça en fait? Parce que ce que je trouve important de rappeler, c'est que donc sur ce pôle, ça serait aussi une manière de réunir les industriels, les scientifiques autour des nanotechnologies. Enfin, ils le sont déjà à Grenoble, mais on est toujours dans cette même... perspective qui va un peu dans le même sens entre l'État et puis les industries, quoi.
L'État et les industries n'ont pas besoin des citoyens, en gros, hein, en tout cas, ils s'en sont passés jusqu'à maintenant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on veut être un collectif citoyen, c'est que on veut avoir les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on va, mais là on a tout de suite démarré, hein. Le 1er juillet on a démarré, on a eu deux réunions avant Mairie de Palaiseau et on a démarré le collectif. Et à partir de là, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Les objectifs, c'est d'arriver à chercher l'information, à interpeller l'État, à interpeller les chercheurs, à interpeller ceux qui dirigent Nano Innov, dont on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants. En fait, ce qu'on veut, c'est mettre de la lumière dans l'obscurité. On veut de la transparence, on veut savoir, on veut pouvoir informer le grand public. En fait, c'est ça les objectifs. Mais la seule chose qu'on a produite jusqu'à maintenant, en dehors de se déclarer collectif, c'est un texte fondateur sur lequel on s'est mis d'accord, et grosso modo après le 29 septembre qu'on a réussi à finaliser. Mais les objectifs, qui sont les mêmes que les autres collectifs qui sont à Grenoble ou qui démarrent à Toulouse ou à Bordeaux, c'est d'obtenir de l'information, de la transparence, ou quand l'information n'existe pas ou qu'on ne veut pas la donner, que l'autorité de l'État ne veut pas la donner, qu'on sache qu'ils ne veulent pas la donner. enfin, qu'on ait en gros, c'est quand même un projet politique d'obtenir l'information et d'obliger les acteurs à se dévoiler.
Je crois que vous avez eu quelqu'un qui vous a appelé quand, dès que le collectif vous avez plus un coup de téléphone derrière.
Oui, c'est-à-dire que comme c'est paru dans la presse, la création du collectif et un petit peu la contestation sur Nano Innov, et effectivement, j'ai reçu un coup de téléphone, du moins, je cherchais à me joindre, parce qu'elle n'a pas réussi à me joindre du premier coup, d'une personne DRG, oui.
Mais sinon, vous êtes une quarantaine, vous avez quel genre de gens dans ces 40 personnes?
Alors, c'est
plusieurs communes, enfin voilà, qui...
Alors, on est globalement, géographiquement, on est beaucoup placé sur le même territoire. Hein, ça va quand même de Massy jusqu'à Orsay, Palaiseau, un peu plus loin, Antony. Et au niveau des personnes elles-mêmes, elles viennent de différents horizons. Il y a de l'associatif, hein, les Amis de la Terre. Bon, il y a effectivement l'associatif, comme vous dites, déjà institutionnalisé sur les nanotechnologies qui est Vivagora, mais qui nous a plutôt aidé à organiser au niveau des comptes rendus.
On
et des
peut
choses
redire
comme ça.
En deux mots ce que c'est Vivagora, oui. Et puis l'autre association institutionnelle là, dont
qui est plutôt un cabinet qui s'appelle Mutadis.
Voilà,
oui. Oui. Sinon nous dans le collectif, et ça on reviendra dessus, oui. C'est créer beaucoup de personnes, soit simplement citoyens qui ont envie de s'intéresser à ça.
Déjà scientifiques. Quand même, plutôt.
Il y a une partie scientifique, il y a une partie le CAS à Orsay qui est un collectif d'action citoyenne. Il y a donc c'est beaucoup de l'associatif et quelques élus. Contrairement au collectif de Grenoble où il y avait beaucoup d'anciens élus, quoi.
Je peux rebondir là sur la présence de scientifiques. Je voudrais m'expliquer pourquoi j'ai rejoint donc la Ligue des droits de l'homme. Et bon, je suis pas représentatif en tant que tel, mais je suis un observateur de la commission environnement nationale de la Ligue des droits de l'homme. Bon, première idée, société de surveillance qui vous est commun, qui nous est commun. Je crois que c'est le thème de l'émission. Nous sommes surveillés, mais nous avons aussi à surveiller ce qu'ils font dans les différents pouvoirs, à supposer qu'il y en ait plusieurs, à supposer que politique économique ne soit pas le même, et il faut un peu contrôler ce qu'il fait. Or, on a un peu l'impression dans le débat que l'État fait un peu n'importe quoi, il fait l'expérience. Non, tout est bien construit, il est indiqué par des chiffres qui sont... Bon, dans le temps, quand on faisait de la science, bon, un type prend une pomme sur la tête, et puis quelques années après, quelques dizaines d'années après, on invente l'avion. Bon, Louis Pasteur, il commence par chercher des trucs, la cristallographie purement scientifique dans une soupente. Il n'a pas de financement et puis il aboutit à un truc d'utilité générale, le virus contre la rage. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle assez nombreux les technosciences. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui fait de la recherche fondamentale et derrière lui, il y a un type qui représente un fonds de pension qui dit quand est-ce que ça sera profitable ton opération. Donc, c'est pour ça qu'il y a des scientifiques dans notre collectif, comme les autres collectifs, des scientifiques qui ont une conception différente de la science et de la technologie et de la technique et aussi du rapport entre ce que font les scientifiques, ce que font les technologues et ce que font la population. Les gens qui sont là sont des citoyens effectivement à un niveau scientifique relativement élevé et dont certains, à Grenoble ou comme chez nous, font, ou à Poitiers par exemple, font de la vulgarisation scientifique. Mais la vulgarisation progressiste et donc ils sont là à vouloir chercher des choses. Mais l'objectif général, c'est quand même deux chiffres, 10% des publications en nanosciences en France, c'est-à-dire c'est un très très bon chiffre, 5% seulement de brevets d'invention en nanotechnologie, c'est un mauvais sens, puis tu parlais de cahier d'acteurs, le cahier d'acteurs du MEDEF trouve que c'est pas bon. Donc l'idée, c'est nous les Français qui sommes des grands intellectuels, il faudrait peut-être qu'on fasse du brevet d'invention davantage, et pas seulement dans les nanos, et que ce brevet d'invention veut dire profit à court terme, etc. Nous sommes dans un domaine, par exemple dans la pharmacie, dans la galerie, il n'y a plus aucune invention, plus personne ne trouve rien. Quand Sanofi Aventis décide de faire de la recherche, ils essayent à l'heure actuelle d'acheter une petite société américaine parce que dans les 4000 personnes qu'il y a dans Sanofi Aventis, on ne découvre plus aucune molécule. La publicité pharmaceutique à l'heure actuelle consiste à vous faire croire qu'on a enfin trouvé la bonne molécule, mais c'est juste de la com, juste du marketing. On ne découvre rien d'utile.
Est-ce qu'il n'y a pas un malaise dans la dans le monde scientifique, c'est quand même une certaine remise en cause quand même des sciences.
Il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. La vallée Orsay, l'université, tout ça, le CNRS et le CEA, ce sont des universitaires progressistes, mais d'une certaine forme progressiste, liée au Parti communiste français, donc liée aux scientifiques fin 19e, etc. L'exemple, même s'il n'est pas dans le coup là, c'est celui que j'appelle Claude A. de la Soufrière, celui qui est allègre, qui nous explique que la science va tout régler, y compris résorber les dégâts que la science elle-même a créés.
Bon.
Nous avons un problème avec cette forme de science qui sont des productivistes. Donc, mais l'aspect progressiste de ces gens-là, c'est qu'ils ont un rapport quand même, ils ont une conception un peu naïve du progrès humain, mais ils ont une conception de l'action collective et du rapport rapport aux classes populaires.
Moi, je voudrais juste revenir un peu sur les personnes qui composent ce collectif. Ouais. Donc il y a quand même un retraité Thalès et dont on a parlé tout à l'heure, Mutadis et Vivagora qui sont.
Alors. Les scientifiques eux-mêmes, parce qu'il y a un club, de science. C'est vrai que sur le plateau, même pour les élus en termes de communauté d'agglomération, le terme de science, c'est presque le sésame. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est pour la science. Alors après, quelle science et qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut quand même dire que quand on a commencé à créer le collectif, on a fait venir des personnes sur le thème l'information, parce que il y a quand même une prise de conscience que personne ou presque connaît quoi que ce soit aux nanotechnologies, et même le terme aurait tendance à dérouter un peu, c'est-à-dire qu'on va pas faire venir des foules sur ce thème-là. Hein. Et du coup, on a fait venir dans nos différentes réunions des gens qui se sont dit « Ok, nous, ça nous intéresse, mais attention, on trouve que, à la limite, vous sortez un petit peu des clous. » Donc, tous nous ont pas rejoints, ceux qui sont dans le collectif, vous parlez de se retraiter, mais oui, mais c'est pas, disons, lui qui conduit. Après, il y a des... Comme ça provoque le débat. Mais il est quand même ouvert au fait que toutes ces questions-là sont légitimes. Ces questions sur le principe de précaution, ces questions sur le risque environnemental, sur le risque sanitaire, sur les enjeux, etc., autour de sociétés, autour de ces questions-là. La question des associations comme Vivagora et Mutadis, c'est autre chose. C'est effectivement, eux... On se sont donné un petit peu comme... mais c'est difficile de parler à leur place. Hein. Moi, ça me gêne un peu. Pour moi, ils sont venus un petit peu nous aider dans le processus de création du collectif. Mais ce n'est pas eux qui sont les leaders.
Donc, c'est ce qu'il faut dire...
Je suis sûr que les auditeurs de cette radio aimeraient savoir qui est Mutadis.
Voilà. Donc, qui va nous laisser ?
Mutadis, c'est un bureau d'études indépendant et qui a été ciblé par le collectif Sortons du nucléaire en disant ce bureau indépendant, il est indépendant de quoi ? Il n'est financé que par des financements publics ayant pour but l'acceptabilité. Le plus gros projet, c'était en Biélorussie, post-Tchernobyl, a expliqué qu'il fallait mieux expliquer aux gens combien le nucléaire, etc. Donc si nous travaillons avec Mutadis, c'est aussi parce que Mutadis a modifié, a pris dans la gueule ça. Bon, il a été défendu par des antinucléaires, en particulier des antinucléaires et des écologistes de Normandie, en expliquant, attendez, la science, c'est une chose, laissez travailler les scientifiques et ne racontez pas n'importe quoi. Mutadis, il nous aide là, effectivement subventionné par le ministère de la Santé, mais sur un appel d'offres, c'est pas sur un appel d'offres du ministère de la Santé, mais sur une proposition, c'est-à-dire sur la démocratie, sur comment les citoyens peuvent s'approprier les questions scientifiques. Donc, et c'est pas par hasard si le ministère de la Santé, parce que tous les autres ministères d'industrie haute s'intéressent pas. Quand le collectif a été effectivement, quand les RG a cherché à en savoir, c'est qu'il est arrivé cette idée qu'il y a eu un débat, maintenant ça va, pour le CA ça va, on en a causé. Et le ministère de la Santé, lui, n'est pas convaincu. On ne peut pas, là, on n'a pas un État, on n'est pas un État homogène. Le ministère de la santé des consommateurs et la santé des travailleurs face aux nanoparticules, aux nanoprocessus et aux matériaux, le ministère de la Santé n'est pas convaincu qu'on ait toutes les questions. Donc il nous appuie, nous, mais personne n'achète personne.
Il n'y a pas que le ministère de la Santé donc, qui soutient certains groupes à l'intérieur du collectif. Vivagora donc, a le soutien du Conseil régional d'Île-de-France pour organiser des débats et des rencontres en 2011 au sein des entreprises, notamment à Saclay sur les nanotechnologies. Donc il y a des ambiguïtés sur les volontés du collectif. Enfin, j'ai l'impression des intérêts différents ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, ça pose la question se pose.
C'est vrai, de toute façon. Enfin, c'est vrai. Attendez, ce qui est vrai, c'est que Vivagora a. Moi, je ne veux pas parler en leur nom,
c'est
des personnes que j'ai rencontrées et que j'apprécie en plus, hein, et qui ont une beaucoup plus grande connaissance que nous sur ces questions, d'ailleurs, autour des nanos, sur les enjeux de société, sur les risques, sur tout ça. C'est vrai que ça fait 6 ou 7 ans qu'ils sont sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'était un peu rassurant d'avoir des gens comme ça qui pouvaient nous aider, mais c'est, comme je disais, c'est pas eux qui ont du tout créé le collectif. Ils sont venus juste nous aider un petit peu à faire les comptes rendus et, disons, à donner un peu de crédibilité par rapport à d'autres qui pouvaient effectivement venir du monde scientifique, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un collectif citoyen. Et d'ailleurs, c'est un peu la difficulté, c'est que pour le moment, la seule chose sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est de créer ce collectif.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes de la question des nanotechnologies au sein du collectif ?
La plupart.
Parce que comme il y a beaucoup de chercheurs...
D'abord, il n'y en a pas tant que ça, des chercheurs. Hein. Oui, il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints, mais ce n'est pas le chercheur prototype. C'est justement ceux qui ont admis que dans la recherche, on pouvait se poser la question de la validité de ce qu'on fait.
Des chercheurs en nucléaire, des chercheurs en informatique. Ça, question nano, nous n'avons pas de spécialistes.
Et en même temps, ils sont quand même chercheurs. Enfin, ouais. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu... Enfin, en dehors de...
Science,
quoi.
D'abord, il y en a beaucoup qui ne sont pas chercheurs. Les chercheurs ne sont pas en majorité, ils sont en minorité. La question, c'est que sur le plateau de Saclay, enfin sur ce territoire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la recherche, hein, que ce soit au CNRS, au CEA...
Il y a quand même Terre de Liens, il y a quand même des... C'est encore des terres maraîchères, il n'y a pas que des chercheurs sur le plateau de Saclay, il y a des habitants.
Il y a à la fois des personnes qui sont habitants, qui sont militants, associatifs, militants politiques. Il y a tout ça. Les chercheurs sont en minorité. Hein. C'est pas un collectif.
Vous allez faire des réunions publiques sur le.
Oui, c'est ce qu'on veut faire. Oui.
D'accord.
C'est ce qu'on veut faire. On n'a pas encore de date à vous donner. Hein. Probablement au mois d'avril, on devra en avoir un débat, mais on va essayer avant.
Le premier axe, c'est de construire un niveau de connaissance satisfaisant sur le sujet et de le proposer aux concitoyens du secteur. Et c'est notre premier travail, avoir un niveau. Et alors là nous avons constaté hier à la réunion avec les autres groupes, les autres collectifs du territoire, sur disons 4 autre territoire, que en mutualisant tout ça, effectivement, il n'y a pas besoin qu'on tous on apprenne chacun dans notre coin, qu'on prenne des vieux bouquins, des vieux bouquins en l'occurrence, si je ne dis pas de vieux bouquins, mais ce qui a été dit, bon, il y a une époque, le nanomonde c'était formidable, ça allait tout permettre, des nouveaux matériaux, ça allait économiser des ressources naturelles, etc. Et puis les entreprises américaines qui s'y sont intéressées ont montré que il y avait un autre avenir que simplement les nanos au service de tout le monde. On a déjà un niveau de connaissances scientifiques acquérir, c'est le premier objectif, de comprendre de quoi on parle et de faire parler. Quand on dit Vivagora est un moyen qui va nous permettre d'entrer dans des entreprises qui font cela. Et un autre moyen d'entrer, on l'espère, c'est de trouver déjà des syndicalistes. Parce que l'objectif quand même global, c'est de vérifier que c'est potentiellement utile. Il y a déjà 1000 produits nano qui circulent, donc il y en a. Donc il s'agit de voir combien, si c'est dangereux ou pas pour les travailleurs qui travaillent dans le secteur ou pour les consommateurs, et pour ça il faut savoir de quoi on parle. Alors on arrive, et donc il y a une bataille, si je viens à l'LDH, un peu juridique, et là est au niveau européen faire des nomenclatures. En fait, nano, ça n'existe pas, c'est juste, comme ça a été rappelé, une dimension. Mais dans la réalité, il y a des branches industrielles dans lesquelles on utilise des nanoparticules, où on construit des nanomoquettes, c'est différent. Et de point de vue, pour moi, c'est le niveau de chaque branche industrielle utilisant ce type de processus.
Juste là,
notamment, il nous faut des syndicalistes. Nous manquons de syndicalistes.
Il faut rappeler aussi que sur les produits qui contiennent des nanotechnologies, en fait, il n'y a rien indiqué sur l'étiquette.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est... En fait, on peut acheter un frigo, un micro-ordinateur ou du textile ou de l'alimentaire ou du cosmétique et on ne sait pas qu'il y a des nanos dedans.
On peut rappeler le marché des nanotechnologies. Là, j'ai relevé quelques chiffres. Donc, en 2006, 8 milliards d'euros. 2010, 20 milliards d'euros. 2015, ça serait 1500 milliards d'euros. Qu'un marché exponentiel.
C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, ça draine, et le groupe de Grenoble là, qu'on a rencontré hier nous l'a très bien montré, le mot nano, c'est presque quelque chose pour faire venir les fonds publics. C'est-à-dire que ça permet à des entités autour duquel effectivement il y a le CEA, ils se sont groupés avec d'autres, mais c'est surtout pour attirer les fonds publics. Donc, non seulement ça pose des interrogations et il faudra un niveau de connaissance autour de minimum autour des techniques et des sciences, mais il faut aussi un niveau de connaissance sur les enjeux publics de ce que c'est que l'argent, l'investissement, ce qu'on veut en faire. Il y a un besoin de connaissance à tous les niveaux qui manque.
Mais en dehors de l'information, vous voyez des revendications précises à établir sur le plateau de Saclay par rapport à l'établissement du bâtiment, par rapport au développement économique même de la chose.
Il y a une association qui est à Lozère, qui est un des quartiers de Palaiso.
C'est Polytechnique.
En dessous de Polytechnique, enfin, le quartier sur lequel est Polytechnique, qui a fait un recours contre des permis de construire, mais qui a été rejeté. Il n'y avait pas grand-chose. Mais un des motifs de rejet par la juridiction, c'est que on était en train d'intervenir contre une opération d'intérêt national qui était l'innovation dans le domaine des nanotechnologies.
Les revendications, sinon, qu'on veut, c'est l'application du principe de précaution, c'est la connaissance pour tout le public des risques qui sont pris ou pas au niveau environnemental, c'est au niveau des libertés publiques aussi, de savoir ce qui existe ou pas quand on achète un... Là, pour le coup, Pièce et Manœuvre, effectivement, je trouve qu'ils ont fait un bon travail en expliquant que on peut être suivi à la trace parce qu'il y a dans les vêtements ou il y a aussi le risque sanitaire. Il y a aussi le risque sanitaire. Quand on mange des aliments, on ne sait pas les nanos, est-ce que tout a été prévu, de savoir les conséquences. Pareil pour les cosmétiques. On traverse...
qui sont très à la mode en ce moment.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément toutes les répercussions, mais les scientifiques eux-mêmes ne les connaissent pas. Et il y a des mises en garde qui sont faites, mais bon, c'est-à-dire que les intérêts du profit, du privé, précèdent la connaissance. C'est là où on est
inquiet. Il y a pas dans les nanos, par exemple, qui servent à la médecine, puisque l'argument toujours pour vendre une innovation, c'est de dire ça va guérir. Bon, il est évident qu'a priori, intervenir sur au bon endroit plutôt que de filer un médicament qui se dissémine dans tout le corps, c'est un progrès, mais on ne connaît pas les conséquences à long terme. On ne sait même pas à long terme, ça veut dire un peu comme les déchets nucléaires. Qu'est-ce que ça que après?
Mais plus globalement, quels sont vos interlocuteurs? Vous avez parlé de réunions publiques, donc ça va être la population des différentes communes concernées. Vous avez parlé des entreprises aussi, vous avez parlé des syndicalistes. Mais pour les revendications, à quel acteur vous allez vous adresser? À l'État, à ses divers représentants?
Tout est ouvert, c'est à nous de décider. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs objectifs qui ont été envisagés pendant la création du collectif. Il y a effectivement une envie de faire connaître à la population tout ce que ça implique, les nanotechnologies, les risques, la connaissance, est-ce qu'on met dans la balance, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice au niveau de produits, de consommation, et quels sont les risques qu'on prend, des choses comme ça. Après, sur les entreprises, ce qu'on veut, c'est obtenir des, lever un peu les secrets industriels. Enfin, c'est pas si évident, mais en tout cas, connaître à la fois les enjeux au niveau des investissements.
Moi, je voudrais parler d'un autre point de vue, qui est les commissions hygiène et sécurité, ou les comités hygiène et sécurité, selon la structure. Il faut bien voir, il y a un des éléments de réaction sur Nano, c'est-à-dire l'inconnu, c'est la bataille de l'amiante. Moi, personnellement, j'ai accompagné des dirigeants d'établissements dans les années 76 à Jussieu pour une rédaction d'un contrat. Et le patron que j'accompagnais était un chimiste qui a dit à ses collègues à Jussieu qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amiante. Et il a répondu, c'est une invention des écologistes. Bon, 30 ans après, vu les cancers de la plèvre qui sont arrivés, et 30 ans après, donc le nombre de morts, etc., on sait bien que Jussieu, maintenant, c'est le désamiantage officiel que les dirigeants de Paris 6, Paris 7 et l'Institut du Globe, encore une fois Allègre, ont été mis en examen pour cette affaire-là. Et moi, j'ai vécu, et ma compagne aussi, de manière tragique, la répression. Ces professeurs bien pensants par ailleurs ont nié le problème, et les commissions hygiène et sécurité, par exemple à Paris 3, le médecin a été viré, les syndicats, etc. Donc c'est pas clair. Mais le CHS est un lieu de citoyenneté où les travailleurs concernés. Alors le problème, et Raymond Abrier, le Grenoble, l'a dit hier, il a rencontré quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, qui a un rapport avec des raisons que Abrier dénonçait il y a 30 ans. À l'époque, il était syndicaliste, défendons l'emploi. Et c'est un peu ça la question. Nous défendons, nous, un travail qualifié.
C'est lui qui a un cancer, c'est lui qui défendait l'emploi, et maintenant il a un cancer.
Et il dit, tu avais raison, effectivement, je meurs bien de ce que tu m'avais malheureusement pronostiqué.
Non, je voulais demander combien de personnes vivent sur le plateau de Saclay. Qu'est-ce que ça représente comme entité humaine, quoi? Combien de personnes sont concernées par les enjeux de développement sur ce plateau?
Si vous voulez savoir, il y a plusieurs. D'abord, c'est sur deux départements. Il y a l'Essonne et les Yvelines. Et par exemple, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay elle-même, c'est 100 000 habitants à peu près. Maintenant, il y a toute la partie Yvelines. Il y a sûrement autant. Je veux dire, c'est un territoire qui est pas encore
circonscription de Madame Valérie Pécresse.
Voilà. Non, mais je veux dire qui est pas à part certains endroits comme les Ulysses, qui a été l'exemple de ville nouvelle un peu créée au Orsay, a mis ses logements sociaux aux Ulysses. Enfin, en gros, il y a une partie de la ville qui a été construite aux Ulysses, qui était la ville. Ben si, c'est quand même ça. Bon, mon voisin dira ce qu'il en pense, mais
non, j'ai pas le temps.
Voilà. En tout cas, c'est pas un territoire pour le moment qui est très dense en termes d'habitation.
Mais 70 000 logements et 100 000 habitants, ça change la proportion.
Ah oui,
ça chamboule complètement.
Mais c'est pas ce qui est dit. Ils disent pas qu'ils vont faire ça. C'est ce qu'on soupçonne qu'ils veulent faire, mais ils le disent pas dans les projets.
Alors, est-ce qu'il y a un site au sujet de votre, autour de votre collectif?
Pas encore.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un mail?
Il y a un site sur les nanos qui est en construction, en reconstruction.
Oui,
d'accord. Cas, pour les personnes qui seraient intéressées, qui habitent le coin, qui seraient intéressées par votre collectif, vous n'avez pas de coordonnées à donner ou quelque chose comme ça?
Qu'ils attendent le track qu'on va élaborer dans les semaines qui viennent.
Vous voulez quoi?
Pour les auditeurs qui seraient intéressés,
un mail,
c'est comment vous communiquez pour le moment
Moi, je vais bien donner le mien, sinon, mais parce qu'il n'y a pas. Il y a un mail collectif, mais il est interne. C'est une liste interne. C'est pas une liste externe. Si je donne. Je suis pas sûr que le.
Bon, bah, ça arrive.
Non, je pense pas que nous soyons autorisés.
Ouais. Voilà. D'accord. Non, mais je peux vous donner un mail, vous voulez?
On est quand même.
Si vous voulez, le mien, mrouyer@yahoo.fr, et ça arrivera.
C'est un peu rapide, il faut le répéter.
Bon, Rouyer, R-O-U-Y-R, donc Michel Devant, ça fait mrouyer@yahoo.fr.
En tous les cas, on aura compris que cette histoire du plateau de Saclay est une affaire quand même, une affaire d'État, en quelque sorte.
Ah, ça, c'est clair.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
Il va falloir être raisonnable maintenant. Croiser, multiplier, ça c'est limite. Il va falloir se calmer là, tout de suite. Il va pas en reprendre deux fois de l'or, des rubis, de l'étain, de la bauxite. Et dans les veines du tungstène, du platine, de l'opium. Dans les veines uranium, gaz et schiste, bitumeux. Il va rester là, se tenir tranquille maintenant. Croiser, multiplier là tout de suite, il va réfléchir. Il va mettre en sursis l'exécution du projet. Il va suspendre, il va suspendre. Il va pas en reprendre de quoi, de la baleine, des œufs, du sucre, de la vache et du porc. Il va s'en retenir. Plus de ton, mais y'a plus de ton. Fini, y'en a plus, plus. En or, écrevisse, rhinocéros. Il va se ménager. Il va nous, vous, ménager. Cesser de postillonner, croiser, multiplier, suer la grosse goutte. Il va se taire là tout de suite. Il va se taire maintenant parce qu'il entend que la soupe chuchote.